Salut à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans Analyse F1, un nouveau podcast, enfin j'ai envie de dire, puisque ça fait bientôt 2 semaines que je n'avais pas fait de podcast et on va dire, pour compenser, il y aura très certainement un deuxième podcast cette semaine, enregistrement prévu jeudi, ce n'est pas sûr encore, mais j'espère pouvoir vous présenter très vite une petite surprise. Pour le moment, nous allons faire un podcast somme toute classique avec une première partie consacrée à l'écurie Force India qui avait loupé les essais de Jerez de la Frontera avec mon magnifique accent espagnol, hein, n'est-il pas ? Et en deuxième partie de podcast, nous reviendrons sur... sur Marussia. Et sur l'actualité qui a entouré cette équipe qui n'est pas encore assurée de ne pas faire la saison 2015. Il y a encore un petit espoir, mais il y a des discussions, des débats, des critiques et je parlerai de tout ça. Ça a bien animé, on va dire, les tablettes tactiles, hein, pas les tablettes en pierre. Avant, l'expression, hein, c'était... Vous retrouverez ça sur les tablettes, hein, on trouve ça sur les tablettes, c'était les tablettes en pierre, hein. Mais maintenant en 2015 c'est les tablettes tactiles, donc c'est encore valable cette expression, on peut la sortir, voilà, c'est une petite astuce analyse F1 pour la vie de tous les jours, qui je l'espère sera utile ou pas. Bref, parlons de Force India. Pourquoi parler de Force India? Parce que pour moi, Force India c'est un peu... un cas que je pourrais comparer à Lotus en 2014. Souvenez-vous, pour les essais hivernaux, Lotus avait loupé une grande partie des essais hivernaux et avait essayé d'éteindre le feu en disant que c'était stratégique de louper ces essais et que ça ne servait à rien et que la monoplace serait bien née plus tard. Et que c'était mieux de louper les essais de Jerez, c'était stratégique, alors qu'en fait pas du tout. Lotus avait subi le contre-coup de pertes financières, de pertes humaines en termes de talent, de savoir et savoir-faire, tout simplement, en termes de pilote avec Raikkonen. Hein. Et on sait l'histoire qui s'est passée avec Maldonado recruté, le sponsor PDVSA qui a bien aidé Lotus. Mais voilà, année compliquée du coup pour Lotus, qui avait une monoplace pourrie au début de saison, mais très pourrie, et on s'y attendait parce que sans essais hivernaux c'est compliqué, et qui a eu une monoplace pourrie finalement toute l'année. Donc contre-coup de ne pas avoir fait Jerez, ou Jerez, si vous préférez, eh bien ça a été ça, c'est-à-dire une saison en retard, et quand t'es en retard sur les autres écuries dans une saison charnière, hein, la première saison avec... la motorisation hybride, eh bien c'est très compliqué. Et Lotus a subi pendant toute la saison les conséquences de ses mauvais choix, ou en tout cas de ses difficultés. Mais seulement il n'avait pas assumé ça lors des essais hivernaux. Et bien là c'est pareil pour Force India, qui en revanche a révélé sa livrée, au Mexique, et plutôt avait révélé sa livrée via internet avec une image tout simplement, avec des nouvelles couleurs, on va dire, des nouvelles couleurs, disons qu'on voit moins le, il me semble que c'est le vert que l'on voit moins sur la Force India désormais, il y a un gris qui ressemble au gris qu'on peut voir sur la McLaren, il y a du blanc, du noir. Des couleurs qui restent dans le même ton, on va dire. Mais voilà, et sinon, au niveau du nez à l'avant, ben, comme cette année, la réglementation, on va dire, uniformise un peu la forme générale du nez, pas la forme au bout. Au bout, par contre, les écuries ont pu ont exploité la petite faille du règlement, comme toujours, hein, c'est bien normal, et ont effectué des modifications, du coup, vraiment tout à l'avant du nez. Il y a des changements, mais par contre, c'est vraiment tout à l'avant. C'est pas tout le nez tel qu'on pouvait le voir l'année dernière et qui donnait à des choses assez... qui peuvent être considérés comme moches, comme sur la Force India, comme sur la Caterham, etc., etc. Et comme sur peut-être la Lotus, si vous aviez trouvé moche le nez. Enfin bref, du coup, la Force India a été révélée. Il y a une révélation au Mexique, hein, pour marquer le coup, comme il y aura le Grand Prix du Mexique. Grand Prix du Mexique déjà en 2015, non? Ah, possible, ouais. Il me semble que c'est déjà en 2015 le Grand Prix du Mexique. Je voudrais pas dire de bêtises. C'est possible que j'en dise une. Je regarde vite fait. Ah non, c'est bon, ouais. Prévu pour le 1er novembre, hein, le Grand Prix du Mexique. Avant-avant-dernier Grand Prix de la saison 2015. Donc non, je ne dis pas de bêtises. Il est bien prévu en 2015. Et donc évidemment, avec leur pilote Sergio Pérez, ils ont également des sponsors mexicains. Du côté de Force India. Donc évidemment, ils ont joué là-dessus. Ils ont joué sur tout ça pour faire une bonne lancée de leur nouvelle livrée. Mais voilà, à côté de ça, ils ne sont pas allés à Jerez. Et leur communication a été tout simplement de dire que c'était normal, tout simplement, qu'il n'y avait aucun problème, que le seul problème qui avait empêché Force India de se rendre à Jerez, c'était le déménagement de soufflerie, parce que maintenant ils utilisent la soufflerie de Toyota à Cologne, alors que ce n'était pas le cas avant, et apparemment ce déménagement a fait que Force India n'a pas pu se rendre à Jerez. Donc pourquoi? Peut-être il manque des essais dans cette soufflerie, du coup le déménagement a été peut-être long pour s'adapter aux installations de Cologne, pour pouvoir effectuer les essais en soufflerie, parce que évidemment la soufflerie est un élément très important dans le développement d'une monoplace, très très important en termes d'aérodynamisme notamment, et de tout pour le comportement de la monoplace. Ça donne une idée, ça donne une bonne idée, et donc peut-être que ça aurait été ce déménagement qui aurait provoqué du retard. Mais voilà, il faut bien se rendre compte que si c'est bien ce déménagement qui a provoqué la non-venue de Force India à Jerez, eh bien c'est bien qu'il y a du retard à quelque part. Et ça, par contre, ce n'est pas avoué. Mais c'est sous-entendu. Il faut analyser un peu tout ça. C'est sous-entendu, évidemment. Si ce déménagement a provoqué ça, eh bien ça veut dire que la monoplace n'est pas encore vraiment née, et qu'il manquait des tests en soufflerie qui ont été tardifs. Et voilà. Mais ensuite, il y a des nouveaux problèmes. Il y a des problèmes, on va dire, qui sont connus du côté de Force India. Vijay Mallya, qui gère Force India, eh bien, il a un associé qui a été en prison. Apparemment, il y aurait des fournisseurs qui auraient été impayés, même si Force India dément ça. Et certains fournisseurs démentent ça aussi, donc c'est intéressant. Par exemple, Mercedes, hein, Niki Lauda, hein, le président non exécutif de Mercedes, qui a démenti ça, et d'autres également. Mais ensuite, il y aurait eu des fournisseurs payés très tard, par contre. Donc, à l'époque, ils étaient bien impayés, et du coup, le matériel est arrivé un peu tard. Donc voilà, des problèmes du côté de Force India qu'il ne faut pas cacher. Après, est-ce que ces problèmes sont aussi graves que ceux qu'avait rencontrés Lotus en 2014? Peut-être pas. Mais c'est quand même des problèmes qui touchent à la machine, quoi, à la monoplace. Donc c'est des problèmes qui peuvent s'avérer graves dès le début de saison. Et sachant que certaines écuries ne vont pas perdre de temps pour développer leur monoplace, ça risque de porter préjudice à Force India. Ça risque vraiment de leur porter un gros gros préjudice. Et ça, c'est dommage, mais ça serait bien qu'ils assument, parce que sinon ils vont vraiment descendre de très haut, surtout que là, les ambitions de Force India, ils essayent vraiment de cacher la forêt avec leur petit arbre, puisque ils n'arrêtent pas de déclarer que 2014 a été une super année. C'est vrai, une bonne année comme toute avec Force India. Ils font toujours une bonne partie, une demi-saison bien dans une saison. Mais en 2015, ils disent qu'ils veulent viser d'aller plus haut et tout. Personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seconde. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas. Faudrait vraiment qu'ils aient une monoplace très bien conçue, là, vraiment. Vraiment, là, ce serait une grosse, grosse surprise que Force India vienne se mêler à la lutte devant. régulièrement pour les podiums, je n'y crois pas trop. Après, ils ont une unité de puissance Mercedes qui peut les aider vraiment, mais attention, pas de test à Jerez. Tous les autres ont fait les tests à Jerez. Les tests à Jerez, ils servent déjà pour les pilotes, évidemment, à pouvoir faire les premiers feedbacks de la voiture. Dès les premiers tours, ils sont capables de dire s'ils ont une monoplace correcte ou pas. S'ils ont une monoplace qui a plein de soucis et qui est imprévisible à conduire. Donc ça, c'est important. Ça, ils ne l'ont pas. Du coup, ils l'auront peut-être à Barcelone, hein, on ne sait pas. Ensuite, il s'agit aussi à Jerez de régler tous les problèmes de naissance d'une voiture. C'est comme un bébé, en fait. Comme il y a une femme accouche d'un bébé, tout simplement, et le bébé il va se faire vacciner hein, dans les premiers mois, la première année. Et c'est là qu'il y a les gros vaccins quoi, contre les plus grosses maladies, parce qu'il est sensible, le petit. Une monoplace de F1, c'est pareil. C'est pareil. Dès qu'elle a été conçue, dès qu'elle est assemblée et tout, dès qu'ils ont fait les tests en soufflerie et tout, et qu'ils emmènent la monoplace dès les premiers essais, et ben c'est là qu'elle va être lancée pour la première fois réellement sur un circuit, avec le pilote à son bord. Et c'est là qu'on va pouvoir déceler les problèmes. C'est pas au simulateur, c'est pas à la soufflerie qu'on va pouvoir déceler certains problèmes. C'est vraiment sur la piste. C'est donc là qu'on règle des problèmes de naissance. Et Force India n'a pas pu faire tout ce travail. Et donc va devoir le faire peut-être à Barcelone. Et savoir quand à Barcelone, on ne sait pas. Donc c'est très grave. Et ensuite, dernier problème, ça sera une conséquence. C'est que oui, Force India, comme vous le savez peut-être, et c'est lié à la deuxième partie du podcast, Force India fait partie des écuries qui ont bloqué. Le retour de Marussia avec une monoplace 2014. Parce que Marussia voulait revenir avec une monoplace 2014. Les instances de la F1 avaient déclaré que ce serait possible. Mais finalement, le groupe stratégique composé des écuries de Formule 1, enfin des principales écuries de Formule 1, dont Force India est la nouvelle venue cette saison à la place de Lotus, eh bien, Force India fait partie des 3-4 écuries, donc de la grande majorité des écuries, à refuser. Le retour de Marussia avec une monoplace de 2014. Bon, après il y a des raisons certes, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, mais la conséquence que ça, c'est que imaginons à cause de ça, Marussia ne peut pas revenir parce que c'est trop dur financièrement et tout. Caterham non plus. Eh ben le fond de grille, il sera composé de qui? Il y aura Sauber qui luttera, il y aura Force India qui luttera, il y aura peut-être Lotus Toro Rosso. Voilà, il y aura quatre écuries qui lutteront et Force India en fera partie hein, pour le fond. Faut qu'il fasse vraiment attention. Faut qu'il fasse vraiment attention. Et ça, d'ailleurs, c'est le Giancarlo Minardi, donc vraiment quelqu'un de connu en termes de petites écuries. Hein, on parle de Minardi, écurie Minardi, hein, Giancarlo Minardi, qui a dit que forcément, il dit la même chose. Il a dit la même chose que moi. Je le disais déjà il y a plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois déjà. C'est que voilà, si t'enlèves les petites écuries. Oui, je le disais il y a plusieurs mois, parce que c'était vers la fin de saison de F1 en 2014. Si t'enlèves les petites écuries, ben après les écuries de milieu de tableau se retrouvent en fond de grille. C'est d'une logique implacable. Et ça, pour l'image, pour tout ce qui est utilisation commerciale du nom, ça peut avoir des conséquences terribles. Et voilà. Et là, quelques mois plus tard, après que j'ai dit ça, on se prend ça en plein dans la vue parce que les problèmes ne sont pas réglés et parce que tout le monde voit son petit bout de nez, tout simplement. Et donc voilà, ça pourrait avoir des conséquences pour Force India en elle-même. Hein. Donc attention, attention, affaire à suivre à Barcelone hein, s'ils se rendent à Barcelone. Là par contre, s'ils se rendent pas à Barcelone, première partie de saison va être catastrophique. Deuxième partie de saison, ils auront peut-être une monoplace, mais les autres auront développé la leur. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Faut pas rêver. Hein. Les packagings évoluent au fil de la saison. Hein. Donc vraiment attention, Force India, à être réaliste et à ne pas reproduire ce qui s'est passé avec Lotus en 2014. Ce serait triste, hein, surtout pour les pilotes. Hein. Nico Hülkenberg, Sergio Pérez, c'est quand même un très très bon line-up hein, qu'ils ont et qu'ils ont pu garder parce qu'il n'y avait pas de place dans les top teams. Cette saison, les places valent très cher dans les top teams. En termes de talent, quoi, tellement il y en a. Donc vraiment attention à Force India, parce que 2015, ouais, mais 2016, qui sait où Nico Hülkenberg ou bien Sergio Pérez seront, hein. Ça pourrait être compliqué en 2016. Bref, il y a tout ça à regarder, et eh bien on va bien voir ce qu'il va se passer dans les semaines à venir, hein. Je tiendrai au courant, je pense, si jamais il se passe vraiment quelque chose d'important. Eh bien voilà, eh bien on parlait de Force India, on parlait aussi de il y a peu là de Marussia liée à Force India avec cette décision du groupe stratégique, mais il convient de revenir sur, on va dire, l'affaire Marussia dans son entier, et c'est ce que je vais faire après une petite pause musicale. Alors la pause musicale, c'est une chanson de Oleg Razin, ou une musique de Oleg Razin qui s'appelle Speedroad Driver. A tout de suite et bonne écoute.
We'll be right back.
On se retrouve donc dans Analyse FM. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, des musiques que je passe, j'essaye de les rendre thématiques hein, par rapport à la Formule 1. Je pense que c'est important et ça me paraît pertinent. Et n'hésitez pas, si vous êtes vous-même artiste, artiste musical donc, ou que si vous faites partie d'un groupe ou si vous connaissez un groupe, n'hésitez pas à me mettre en relation avec eux ou à vous mettre en relation avec moi, en contact en tout cas, afin de me communiquer vos musiques, afin que je puisse les diffuser dans Analyse F1. Ce sera avec plaisir, même si elles n'ont aucun rapport avec la Formule 1. Mon but, c'est vraiment aussi de faire découvrir des artistes indépendants. Et si parmi les auditeurs, il y en a, eh bien, je serais ravi de vous faire connaître. Donc, ne soyez pas timide et envoyez-moi un message n'importe où, Facebook, Twitter, Skype, n'importe. N'importe, je suis ouvert. Et donc on se retrouve pour parler de Marussia. Donc une écurie qui semblait, on va dire, au fond du trou. Malheureusement, le paradoxe Marussia, tel que je l'expliquais à de nombreuses reprises durant certains podcasts précédents. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau ? Eh bien, il y a eu la vente aux enchères de certaines pièces de Marussia. Et il y a eu, on va dire, des discussions pour pouvoir embarquer avec la monoplace de 2014. Mais pour cela, il fallait régler certains problèmes quand même d'ordre financier, d'ordre de dette aussi, parce que Marussia a des dettes. Et Marussia a trouvé un moyen avec l'administrateur judiciaire de Marussia. Ils ont trouvé un moyen, c'est-à-dire d'utiliser ce qui s'appelle le CVA. En anglais, c'est un système légal qui permet de payer les créditeurs de Marussia, ou plutôt de Manor, tel que l'écurie s'appelle. Hein. Mais je vais l'appeler Marussia pour qu'il n'y ait pas de confusion, mais si elle revient, normalement, elle s'appellera Manor. Hein, Manor GP, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, Marussia, donc, qui permet de payer les créditeurs petit à petit de Marussia, au fil du temps, afin que l'écurie puisse reprendre une activité normale et que les dettes puissent être payées. En gros, hein, c'est vraiment du résumé. N'hésitez pas à vous renseigner un peu plus sur les détails de ce moyen de paiement des dettes et de reprise d'activité si ça vous intéresse. Mais voilà, ils ont utilisé une spécificité légale intéressante, je trouve, et pertinente pour revenir en Formule 1. En tout cas, ils sont motivés pour revenir en Formule 1, alors qu'ils pourraient très bien abandonner. Mais bon, c'est vrai qu'une activité leur permettrait peut-être aussi de payer les créditeurs. Donc bon, c'est vrai que c'est toujours intéressant de payer ses dettes. Hein. Donc c'est ce qui a été décidé. Et donc la F1, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait bien dit à Marussia qu'il pourrait embarquer avec la monoplace de 2014, hein, comme Caterham, si jamais il pouvait revenir en F1. Ensuite, ce qui a motivé également tout ce beau monde autour de Marussia, c'est que Marussia, si Marussia revient en Formule 1, Marussia a les dizaines de millions d'euros là, dus à leur place au championnat du monde des constructeurs. À leur 9e place, si je ne me trompe pas, devant Sauber et Caterham. Et les deux points acquis par Jules Bianchi. Donc voilà pour ce qui est de la situation. Mais ensuite, il y a eu réunion du groupe stratégique composé donc de, je crois, des 6 premières écuries. Il doit y avoir Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, Force India, et j'ai oublié le petit dernier. Qu'est-ce qu'il y avait qui luttait en haut là du classement l'année dernière ? Je sais même plus, ça veut rien dire. Je sais même plus. Je vais vous dire ça, je l'ai sous la main. Je suis sûr que je vais m'en vouloir d'avoir oublié. Et Williams, bien sûr. Donc doit y avoir tout ça dans le groupe stratégique, normalement, si je ne me trompe pas. Et parmi ces écuries, il y en a 3 ou 4 qui ont opposé un veto, sachant qu'il fallait l'unanimité. Hein. C'est violent, le groupe stratégique. Comprends pas de toute façon ce groupe stratégique, parce qu'à chaque fois, dans tous les changements de règlement qui sont proposés, chacune des écuries y voit son propre intérêt, son propre fichu intérêt, et du coup, si ça joue sur unanimité, si ça va pas à une écurie, eh bien c'est mort. alors que le changement, ça se trouve, serait bénéfique pour la F1. Donc je trouve toujours ça débile d'impliquer des acteurs à à ce genre de décision. Il faut vraiment que ce soit plus objectif que ça, parce que c'est ultra subjectif ce mode, comment dire, de décision. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a la Commission européenne qui va enquêter d'ailleurs sur ce groupe stratégique. Donc à voir, à voir, à voir, à voir. Ils vont peut-être décider que l'équité n'est pas respectée, ou qu'en tout cas le groupe stratégique n'est pas conforme à la législation européenne. On verra, l'enquête va durer sûrement plusieurs mois. Je vous communiquerai, on va dire, le compte-rendu de la Commission européenne et leurs décisions quand ce sera disponible. Mais pour l'instant, on va s'attarder donc sur Marussia. Donc Marussia, dans ce groupe stratégique, réunion du groupe stratégique pour décider si Marussia peut revenir avec une monoplace de 2014, et le groupe stratégique décide non. Et il y avait donc Force India. Mais bon, je ne vais pas revenir sur le cas Force India, j'en ai déjà parlé avant la pause musicale. Et donc, quelles ont été les raisons avancées? Tout d'abord, les raisons avancées ont été... une raison a été qu'il n'y avait pas assez d'informations, pas assez de documentation de Force India pour assurer un retour, on va dire, sain. C'est-à-dire un retour, certes, mais un retour qui sert à quelque chose. C'est-à-dire un retour pour toute la saison. Ou en tout cas, à partir du 3 ou 4e Grand Prix jusqu'à la fin de la saison. Parce que Marussia a encore un délai, c'est-à-dire qu'ils pourront revenir maximum au 4e Grand Prix, il me semble. Il y a une règle comme ça, 3e ou 4e, il me semble que c'est au 4e Grand Prix qui serait le Grand Prix de Chine, je crois. 4e c'est Bahreïn, 3e c'est Chine. Bref, un des deux, hein, peu importe. Ça, c'est le détail du règlement. Et donc, aura un délai, mais bon. Un retour, ça suppose du sérieux. Donc, s'il n'y avait pas de documentation, comme ça a été dit, c'est pas très bien. C'est vrai que Marussia aurait pu fournir des informations sur leur cas, sur leur dossier, fournir un dossier. Ça me paraît la moindre des choses quand on veut revenir en F1, c'est de fournir un dossier. Après, est-ce qu'ils ont eu vraiment le temps de fournir un dossier vraiment complet, vu que les choses se sont précipitées ces dernières semaines avec le CVA? Je ne sais pas, mais en tout cas ils n'ont pas fourni ça. Et ensuite il y avait les garanties incertaines. Les garanties incertaines. Donc bah oui, sur Marussia, est-ce que Marussia va pouvoir aura assez d'argent pour durer tout au long de la saison, va pouvoir courir tout en remboursant ses créditeurs, va pouvoir gérer le budget pour se rendre sur les différents grands prix, quelle usines vont-ils pouvoir utiliser, avec quels employés, comme il y en a eu déjà pas mal qui ont été licenciés, c'est compliqué. Et donc ça, à mon avis, le groupe stratégique n'avait pas assez de substance là-dessus. Ça me paraît logique que ce soit pour ça. Alors certes, voilà, il y a cette raison tout à fait valable et objective. Là, je dis ok. Bon, j'ai pas eu les détails de la réunion, hein, des documents qu'ils avaient, hein, à leur disposition, mais pour ça, ok, c'est bien possible. Mais ensuite, voilà, il y a un truc qui me plaît pas, c'est que je parlais de la subjectivité, on va dire, de ce groupe stratégique, et là où elle se, comment dire, où elle s'exprime, c'est par l'argent distribué en fin de saison aux écuries. Et donc là, évidemment, il y a les millions de Marussia qui intéressent un peu toutes les écuries de fond de grille, et dont fait partie Force India. Évidemment, Force India voit son petit bout de nez et se dit: ah, les 30 millions là, ou 50 millions, si Marussia ne revient pas, ça sera distribué entre les petites écuries. Donc voilà, il y a ces intérêts-là qui rentrent en jeu. Donc voilà, pour moi, il y a conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts apparent, en tout cas, pour ne pas dire de bêtises. Après, l'enquête de la Commission européenne rendra son verdict. Mais il y aurait conflit d'intérêts apparent sur le fait que le groupe stratégique, eh bien, tout simplement, soit le groupe décisionnaire en Formule 1 et soit composé d'acteurs de la Formule 1. C'est un peu bizarre tout de même, des écuries elles-mêmes. C'est comme si, ouais, je sais pas. Non, je trouve pas d'exemple, je vais pas en chercher pendant 3 heures, mais voilà, ça me paraît en tout cas moi bizarre, hein, qu'il y ait ce genre de choses. Généralement, c'est plutôt évité dans la légal, dans le monde légal, on va dire, ce genre de conflit d'intérêts apparent. En tout cas, voilà. Après, le groupe stratégique, d'après ce que j'ai compris, il y a leur décision, et ensuite, il y a la décision de la commission F1. Mais bon, s'il y a eu rejet du groupe stratégique, est-ce que le dossier va devant la commission F1? Bon, ça, je ne sais pas. Je sais pas si ça fonctionne comme à l'Assemblée nationale, où il y a d'abord Assemblée nationale, ensuite Sénat, et ensuite retour à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas trop. Il faudrait que je me renseigne un peu plus sur ce point. Mais bref, en tout cas, apparemment, ce serait mort pour monoplace, ce serait bien mort pour que Marussia revienne avec une monoplace de 2014. Et donc, ils ont répondu, ils sont motivés pour revenir avec une monoplace de 2015, c'est-à-dire, ils prendraient leur monoplace de 2014 et ils changeraient seulement ce qui a été changé dans le règlement sportif de 2015, c'est-à-dire apparemment juste l'avant de la voiture, quoi, le nez, l'aileron, le nez tout simplement de la voiture qu'il faudrait changer. Et ensuite, il faudrait passer les crash tests. Donc voilà. Après le retour de Marussia, attention, parce que sur l'accident de Jules Bianchi, on a vu qu'il y avait certains défauts sur certains systèmes. Donc voilà, il y a aussi ces garanties-là, des garanties de sécurité. C'est peut-être ça aussi qui a bloqué le groupe stratégique sur ce coup-là. Parce qu'il ne faut pas voir que le mal, hein, il faut voir aussi objectivement la situation. Donc attention, attention, Marussia, déjà l'année dernière, avait eu des soucis. Donc cette année, avec un personnel, on ne sait pas d'où ils vont le sortir, une usine, on ne sait pas où, c'est très compliqué, mais ils sont motivés pour revenir en tout cas. Donc souhaitons-leur de revenir, c'est toujours le mieux pour la F1, et surtout qu'après, voilà. Un autre truc, c'est qu'on leur bloque l'accès. Mais je me souviens qu'il y avait un contrat qui lie les écuries, je crois, aux instances de la F1 ou aux promoteurs, et qui dit qu'il doit y avoir au minimum 20 monoplaces sur la piste. Et ouais, mais s'il n'y a plus Caterham, il n'y a plus Marussia. Il n'y en a plus 20 là des monoplaces, hein, il y en a 18. Comment ça se passe avec le contrat? On déchire tout et puis on se lave les mains ou les écuries seront obligées de fournir une troisième voiture? Comment ça se passe? Là, j'aimerais bien qu'on en parle de cette histoire de contrat. Ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler et j'aimerais bien que. Ce serait bien que les journalistes se penchent dessus parce qu'à mon avis, c'est quelque chose à creuser. Il y en avait qui s'étaient penchés dessus la saison dernière, mais là, ça revient quoi. Ça revient au goût du jour. Donc, ou bien j'ai loupé un truc. N'hésitez pas à me dire si j'ai loupé vraiment un élément. C'est bien possible. Mais en tout cas, je me demande ce qui va se passer de ce point de vue-là. Eh bien voilà, c'était tout pour ce podcast d'analyse F1. J'espère que ça vous a plu. Pour Marussia, eh bien, souhaitons-leur de revenir, mais souhaitons-leur de revenir avec des garanties, quoi, tout simplement, pour pouvoir convaincre le paddock, pour pouvoir se convaincre eux-mêmes et pour pouvoir convaincre le public. Ce serait pas mal. En tout cas, pour Caterham, l'autre écurie de bas de tableau. Là, ça semble être vraiment, vraiment mort, mais voilà. Tant qu'il n'y a pas eu le premier Grand Prix de la saison ni rien, moi je n'affirme aucune certitude, hein. Maintenant, je préfère rester mesuré, mais comme je l'avais dit il y a quelques mois, s'il y avait une écurie qui avait le plus de chances que l'autre de revenir, c'était Marussia. Et ça se confirme, c'est encore l'écurie qui a le plus de chances, malgré le crowdfunding un peu désespéré de Caterham en fin de saison. Et je l'avais dit sur le crowdfunding, attention, j'avais dit sur la page du crowdfunding, il n'y a pas marqué de plan sur la suite, hein. Il y a marqué juste de plan pour le dernier Grand Prix. Alors évidemment, c'est important à Abu Dhabi, ça montre la monoplace, les sponsors et tout, et ça peut permettre d'attirer des sous, mais il n'y avait pas de plan défini en tout cas sur la page, et c'est bien dommage. Et il y avait surtout 10 000 problèmes à régler pour Caterham au niveau des dettes et tout. Donc c'est compliqué. Marussia, ils ont la chance d'avoir cette 9e place au championnat du monde des constructeurs. Sinon, s'ils ne l'avaient pas, là ça serait déjà fini hein, pour eux. Là c'est ce qui permet, on va dire, de motiver ceux qui ont repris la main chez Manor, pour Manor Marussia, pour revenir en force, tout simplement. Eh bien voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous donne rendez-vous très très vite, peut-être dès cette semaine normalement, dès jeudi ou vendredi là, normalement, il y aura un podcast de publié, un podcast vraiment spécial, donc j'espère que la surprise vous plaira. Je n'en dis pas plus, évidemment. Hein. Mais voilà, le cœur y est en tout cas. Donc bonne semaine à tous et à bientôt. Et puis en attendant, comme toujours, tous ensemble, vivons notre passion. À bientôt.